Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Isolde Sicard, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Florent Bujon.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Après avoir traversé les siècles en compagnie de Jean-Baptiste Colbert, Adam Smith, John Stuart Mill et Pierre-Joseph Proudhon, nous clôturons cette série de portraits avec la théoricienne de l'égoïsme rationnel, Ayn Rand. Peu connue en France, elle est l'une des grandes figures intellectuelles de la droite américaine et l'auteur de deux immenses best-sellers aux États-Unis, La Grève et La Source Vive. Philosophe et écrivaine, elle a inventé les héros de la mythologie capitaliste et plaidé toute sa vie pour un individualisme radical. C'est à la découverte de sa vie et de sa pensée romanesque que nous partons aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons explorer la vie et l'œuvre d'Ayn Rand en compagnie d'Alain Laurent, philosophe, cofondateur de la French Ayn Rand Society et auteur d'Ayn Rand ou La passion de l'égoïsme rationnel, une biographie intellectuelle parue aux belles lettres. En compagnie également de Stéphane Legrand, philosophe et écrivain, auteur d'Ayn Rand, Femme capitale, parue aux éditions Nova. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
J'ai décidé d'être écrivain à l'âge de 9 ans et tout ce que j'ai entrepris par la suite participe de cet objectif. C'est par choix et par conviction que je suis devenue américaine. Je suis née en Europe, mais j'ai émigré aux États-Unis parce que c'était un pays fondé sur des principes moraux qui étaient les miens, où l'on pouvait écrire en toute liberté. J'y suis arrivée seule après avoir obtenu mon diplôme d'une université européenne. Pour gagner ma vie, j'ai dû me battre et faire des petits boulots jusqu'à ce que mes écrits m'apportent une réussite financière. Personne ne m'a aidé et à aucun moment je n'ai considéré que quelqu'un devait me venir en aide. À l'université, j'ai choisi de faire des études d'histoire avec une option philosophie. L'histoire pour acquérir une connaissance factuelle du passé des hommes, dans la perspective de mes écrits à venir. La philosophie pour déboucher sur une définition objective de ce qu'étaient mes valeurs. J'ai découvert que si l'on pouvait apprendre la première, il m'appartenait d'élaborer la seconde. Aussi loin que je me souvienne, ma philosophie n'a jamais changé. J'ai appris pas mal de choses au fil des années et enrichi ma connaissance du détail, de certains domaines, des définitions et des champs d'application, et j'ai bien l'intention de continuer à l'enrichir, mais je n'ai jamais eu à modifier l'un ou l'autre de mes fondamentaux. Dans son essence, ma philosophie est fondée sur le concept de l'homme en tant qu'être héroïque, ayant son propre bonheur pour éthique de vie, son accomplissement productif pour occupation la plus noble, et la raison pour unique absolue.
Bonjour Alain Laurent et Stéphane Legrand.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Nous venons d'entendre un extrait de la post-phase de la grève, Atlas Shrugged en anglais. Qu'est-ce que ces mots d'Ayn Rand vous inspirent pour commencer? Et pourquoi l'un et l'autre avoir choisi de vous intéresser à cette figure si particulière, Stéphane Legrand?
Qu'est-ce que ces mots m'inspirent? Qu'elle est là en train, dans cette post-phase à la grève, donc Atlas Shrugged en anglais, le titre anglais est plus significatif. Elle est en train, ou elle poursuit l'entreprise de réécriture de sa vie ou d'écriture de sa légende dorée, de se constituer sa propre statue et de commencer sous cette statue à chanter ses propres louanges. C'est un premier point. Elle donne aussi une définition évidemment adéquate de ce qui sont des éléments fondamentaux de sa philosophie, une conception héroïque de l'homme, basée sur la recherche de son propre accomplissement, indépendamment de toute considération altruiste. Sous-jacente à cette formulation se trouve le concept qui est crucial chez elle de vertu d'égoïsme. Et dernier point, je souris un tout petit peu à certaines remarques. Je n'ai jamais considéré devoir rien à qui que ce soit d'autre que moi-même. Je paraphrase à peine. Bon, quand elle vivait au crochet de sa famille à Chicago, de famille plus ou moins éloignée de tante et d'oncle pendant plusieurs mois, qui l'ont permis de financer son séjour à Hollywood, quand King Vidor l'a pris sous son aile lorsqu'elle est arrivée dans le studio, pas certain qu'on puisse dire qu'elle soit intégralement sa propre œuvre sans avoir jamais rien dû à personne. Mais le dire pour elle et le graver dans le marbre est essentiel à l'idée qu'elle se fait d'elle-même et qu'elle veut donner d'elle-même.
Alain Laurent, sur cette philosophie, sur cette première vision de l'égoïsme rationnel que Ayn Rand définit ici.
Ce qu'il faut savoir, que ce n'est pas venu immédiatement à l'esprit de Ayn Rand de se considérer comme une philosophe. Sa passion, c'était d'abord... elle a fait des études d'histoire, mais surtout de cinéma ensuite. C'est ça qui l'attirait aux États-Unis. Elle était une passionnée de films américains, d'où son désir ardent de se rendre d'abord, lorsqu'elle émigre en 1926, à Hollywood. Elle peut voler de ses propres ailes, après avoir fait en effet quantité de petits boulots en tant que scénariste, et c'est là que sa vocation d'écrivaine naît vraiment. Elle a avant tout été une romancière, si on était un peu méchant on pourrait dire une romancière à thèse, avec des convictions philosophiques fortes, et ce n'est que ensuite qu'elle a tiré elle-même une sorte d'enseignement des personnages qu'elle avait mis en scène, en particulier les héros centraux, soit de la source vive ou bien de la grève. Alors, on peut peut-être tout de suite poser un problème, c'est très souvent on la considère comme étant principalement une avocate du capitalisme, de laisser-faire, mais elle a toujours dit, c'est exact, mais je suis avant tout l'avocate de la raison, de la vie et du bonheur.
Alors on va y revenir, mais d'abord commençons par le tout début de son histoire. Ayn Rand naît à Saint-Pétersbourg le 2 février 1905 dans une famille juive de la classe moyenne. Elle s'appelle alors Alissa Rosenbaum et très jeune, elle se passionne pour la littérature et commence elle-même à écrire. Elle a 12 ans au moment de la révolution bolchevique et rapidement sa famille doit fuir la Russie.
Elle n'a pas fui la Russie, sa famille est restée dans ce qui est actuellement l'Ukraine.
Dans un premier temps, oui. Stéphane Legrand.
Oui, enfin, il y a eu un certain nombre de pérégrinations dans le détail desquelles on n'a pas vraiment, le temps de rentrer. Mais bon, sa famille a été victime, ça, on est obligé de le reconnaître, des persécutions. Sa famille qui était classe moyenne mais aisée, hein. Son père était pharmacien, il vivait très bien. Ils ont été victimes d'un certain nombre de persécutions au moment évidemment de la révolution bolchevique. C'est, je pense, à ce moment-là. Même si je crois que sa pensée ou sa philosophie, disons, individualiste, lui vient de très jeune. C'est quelque chose qu'elle avait en elle depuis... j'irais jusqu'à hasarder depuis sa plus tendre enfance. Bon, enfin, sa haine viscérale du communisme de toute forme, non pas seulement de totalitarisme, mais d'altruisme. C'est-à-dire toute idée qu'on puisse envisager de ponctionner l'un pour donner à celui qui est dans le besoin, quelque chose qu'elle a vomi toute son existence, et évidemment le traumatisme qui a été subi à ce moment-là.
Dans un premier temps, elle quitte en effet la Russie pour l'Ukraine, et en 1921, les révolutionnaires chassent la famille Rosenbaum d'Ivépatoria en Crimée, et c'est à partir de cet épisode, notamment, qu'Ayn Rand va ressentir une haine tenace à l'égard du communisme et du collectivisme, Alain Laurent.
Oui, tout à fait, d'autant plus qu'elle a vécu de sa fenêtre, donc à Saint-Pétersbourg, de la perfection Nevski. Elle avait une vue sur toutes les prises d'assaut par les gardes rouges de l'époque, et en effet, ça l'a non pas traumatisée, mais ça l'a orientée à vie. Et c'est quelque chose qui ne lui quitte jamais l'esprit, qui est toujours au fond d'elle, même si elle est distraite par des préoccupations parfois beaucoup plus pécuniaires, beaucoup plus urgentes. Et en effet, le désir de s'accomplir par l'écriture. Moi, j'y reviendrai toujours, c'est ça qui oriente fondamentalement l'existence d'Ayn Rand. C'est avant tout quelqu'un qui croit à la créativité, et pour elle, la créativité suprême, c'est celle de l'écriture, le fait de construire des histoires. Il ne faut jamais oublier qu'elle a d'abord été scénariste.
Alors, c'est grâce à un visa qui lui est accordé pour aller rendre visite à des proches aux États-Unis qu'elle débarque à New York en février 1926, à presque 21 ans. Elle n'en repartira plus. Écoutons sa description amoureuse des gratte-ciels new-yorkais, un passage extrait de son roman La Grève.
« Je donnerais le plus beau coucher de soleil du monde pour un aperçu des gratte-ciels de New York. Surtout quand tous les détails ne sont pas visibles, lorsqu'on ne voit que les formes. Juste les formes. Les formes et l'esprit qui les a conçues. » Le ciel au-dessus de New York est la volonté de l'homme qui l'a rendu visible. De quelle autre religion avons-nous besoin? Les gens osent parler de pèlerinage dans la jungle humide pour rendre hommage à des temples en ruine, à des monstres de pierre au ventre plat créés par un sauvage lépreux. Est-ce vraiment la beauté et le génie qu'ils veulent voir? Cherchent-ils vraiment la sensation du sublime? Laissez-les venir à New York, se tenir sur la rive de l'Hudson, regarder et s'agenouiller. Quand je vois la ville de ma fenêtre, je sens que si une guerre menaçait cet ensemble, je me jetterai dans l'espace sur la ville et protégerai les bâtiments avec mon corps.
Ayn Rand a trouvé en New York sa ville d'adoption, Stéphane Legrand. Elle se sent même plus américaine que les Américains.
Oui, elle est manifestement fascinée par ça. Elle est fascinée par ça depuis les films hollywoodiens et ce monde qui lui apparaît proprement paradisiaque, ce monde effectivement de gratte-ciel qui, en quelque sorte, vont trouer le ciel pour s'en aller défier Dieu et attester en quelque sorte de la puissance créative supérieure des hommes, en tout cas des hommes de génie, qui sont ses temples à elle. Hein. C'est une athée, je pense qu'on peut le mentionner d'emblée, et une athée militante. Les gratte-ciel sont ses temples à elle. D'ailleurs, l'une de ses biographes, je ne sais plus si c'est Burns ou Anne Heller, mentionne qu'elle se serait, dans ses premiers jours à New York, en voyant le skyline de Manhattan, c'est-à-dire les lignes des gratte-ciel, hein, agenouillée, qu'elle aurait eu le geste religieux de la génuflexion. Et évidemment, c'est cette expérience aussi quasi mystique, je crois, qui jouera un grand rôle dans le choix de la profession d'architecte pour le personnage de la source vive, Howard Roark.
Et alors, à la fin des années 30, s'ouvre une période de sa vie marquée par le militantisme politique. C'est d'abord dans la protestation contre la politique du New Deal de Roosevelt que son militantisme prend forme, Alain Laurent ?
Pas tout à fait. Elle a voté pour Roosevelt, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir. Le grand déclic de son engagement politique, ça a été de constater que les intellectuels new-yorkais étaient en grande majorité favorables à l'expérience soviétique. Elle s'est dit, si j'ai traversé des milliers de kilomètres pour retrouver ce que j'ai fui, alors que tous ces gens-là vivent dans l'opulence, etc., et crachent dans la soupe, c'est quelque chose d'absolument monstrueux, et c'est là qu'elle a entrepris de les combattre.
Elle a voté pour Roosevelt, mais elle s'oppose à lui par la suite. C'est pas contre le New Deal qu'elle va lutter.
Ah si, bien sûr, mais c'est par la suite. Lorsque Roosevelt est élu pour la première fois, le New Deal n'est pas encore mis en place. Mais ensuite, elle s'y opposera vertement.
Oui. L'aspect New Deal est quelque chose qui lui est totalement indifférent jusqu'au début des années 40. Parce que lorsqu'elle cherche d'autres personnes, donc des Américains qui sont comme elle, scandalisés par tout ce pro-soviétisme des intellectuels américains, surtout new-yorkais de la côte Est, elle est amenée à prendre contact avec des politiciens, etc. Et c'est là qu'elle commence à s'intéresser à la vie américaine. Mais c'était quelque chose de tout à fait récent chez elle. Et ça ne dure pas. Puisque, pour elle, il est bien plus important de se mettre à l'écriture, à ce moment-là, au début des années 40, de l'écriture, donc, de la source vive.
Elle s'engage en tout cas aux côtés du conservateur Wendell Willkie, candidat républicain à la présidence des États-Unis en 1940. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre la plupart des intellectuels libertariens qui influenceront son œuvre, Ludwig von Mises ou encore Isabelle Patterson. Et elle prend alors le parti du maccartisme, Alain Laurent.
Tout de même, deux bémols. D'une part, elle trouve le candidat républicain en question complètement nul, et donc elle délaisse la politique, on dit on n'arrivera jamais à rien avec des gens pareils, parce qu'ils ne pensent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. C'est aux philosophes de le faire. Et par la suite, sur l'aspect McCarthy, alors elle s'y rallie, elle est outrée en effet par la pénétration du communisme aux États-Unis, et puis peu à peu aussi, c'est assez constant chez elle, elle trouvera que ce qui s'y est dit est nul et elle désertera la commission par la suite. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, toujours pour l'épingler et la faire passer pour une ultra-conservatrice, etc. Or, c'est faux. À chaque fois, elle prend ses distances. Jamais elle n'a pu s'associer durablement à un politicien conservateur ou républicain américain.
Comment est-ce qu'on pourrait décrire la personnalité assez fantasque d'Ayn Rand ? On dit qu'elle porte des grandes capes, qui lui donnent des allures de gourou, qu'elle arbore des pins en forme de dollar.
Alors ça, d'abord, je me permets de dire, je suis à ma grande surprise presque entièrement d'accord avec ce que vient de dire Alain Laurent. Je me permets juste d'enfoncer le clou. D'abord sur le fait que je crois que son engagement politique, il a existé, son militantisme. Oui, elle a soutenu Barry Goldwater, mais plus ou moins du bout des lèvres. Enfin, je crois pas que ce soit une clé vraiment. Et elle toujours revenue en arrière par déception. Alors, toi, tu as raison, ça, on peut en discuter. Mais je crois que véritablement la vocation de romancière, au moins dans toute cette période jusqu'à la publication et les années qui ont suivi la publication de la grève, c'est ça qui est central pour elle et pour la comprendre rétrospectivement. Par contre, bon, mettons tout de même un bémol au bémol, son comportement durant la période maccartiste, par haine profonde et viscérale du communisme, parce qu'elle avait fait effectivement durant ce qu'on a appelé la Red Decade aux États-Unis avant la guerre, où effectivement les idées communistes, notamment sur la côte Est, pénétrer en masse auprès des couches intellectuelles. Je pense, moi, encore une fois, là, peut-être sur ce point, on est d'accord, je pense que c'est encore un nouveau trauma de se rendre compte que dans... au pays d'Oz, dans le monde merveilleux qu'elle avait fantasmé, qui est celui des États-Unis d'Amérique, pour lequel elle avait quitté la Russie, elle retrouve le communisme. Je crois que ça a été...
Bon. Sur sa personnalité, sur son physique.
Alors, faut peser ses mots pour ne pas dire des choses qui seraient déplaisantes. Bon, elle avait un physique très particulier. Elle semblait exercer un charisme absolument extraordinaire. Hein. Bon... auprès de toutes sortes de gens. Elle a un physique très aquilin, des yeux apparemment incroyablement perçants. C'est à ça qu'elle devrait d'ailleurs son nom, enfin le nom qu'elle s'est choisi, hein, Aïn, viendrait d'un sobriquet en russe que lui donnait son père, Aïn.
Et en même temps, c'est quelqu'un de très intransigeant. Quand son éditeur lui dit « Qu'Atlas Shrugged et son millier de pages sont un peu longs », elle lui répond « Couperiez-vous la Bible ?»
Voilà. Ce que vous signaliez tout à l'heure, ce n'est venu que tout de même relativement tardivement.
Vous parlez de la cape et des dollars?
Oui, voilà. Parce que l'histoire est celle-ci. Elle publie donc Atlas Shrugged, donc traduit en français sous le nom de travail de la grève des créateurs.
On peut aussi traduire par la révolte d'Atlas, ça peut être plus clair.
Oui, c'était d'ailleurs en espagnol, c'est comme ça que c'était la rébellion des Atlas, c'est comme ça que c'était traduit. Mais nous, on a choisi aux belles lettres de reprendre le titre de travail qu'avait sélectionné Enron jusqu'à ce que l'éditeur lui dise « mais c'est terriblement ambigu, les syndicats vont croire que, etc. etc. » Ce qui s'est passé, c'est que vu l'immense succès remporté par Atlas Shrugged, donc presque aussitôt des centaines de milliers et puis des quelques premiers millions d'exemplaires vendus, ça lui vaut donc une célébrité extraordinaire et d'être invité sur pratiquement tous les grands campus universitaires américains à la demande des étudiants eux-mêmes. Et c'est là qu'elle commence à se dire, mais au fond, j'ai une autre vocation qui est celle pratiquement de porter la bonne parole. Et elle commence, si je puis dire, à se prendre pour Enron. Et c'est là qu'elle adopte cette vestimenture un peu extravagante et où il y a le signe là. Mais ça ne vient que relativement tardivement.
Alors avant cela, en 1943, elle publie The Fountainhead, la source vive, pour Ayn Rand, l'ego de l'homme et la source vive du progrès humain, je la cite. Un roman dans lequel elle se livre à un plaidoyer pour l'individualisme radical, Alain Laurent. Peut-être rappelez-nous l'histoire en quelques mots.
Oui, alors c'est l'histoire d'un jeune architecte qui essaie de mettre au point de nouvelles méthodes de construction, et un nouveau concept de l'architecture. Évidemment, les milieux conformistes le rejettent. Et à ce moment-là, comme ces projets ne sont pas acceptés, c'est quelqu'un qui, pendant un certain temps, préfère être employé comme casseur de pierre dans des carrières, plutôt vivre pauvre que ne pas vivre indépendant et avec la liberté de ma créativité. C'était ça son mandat. Et peu à peu, il y parvient, jusqu'à ce qu'à la fin de ce roman, à nouveau, il soit contrarié. Ce qui attendra peut-être les gens qui ne le connaissent pas, c'est cet architecte Howard Roark conçoit de ce qu'on pourrait appeler pour l'époque des logements sociaux, mais sont tellement révolutionnaires que on ne veut pas le laisser continuer et lui préfère les détruire plutôt d'accepter que sa créativité soit mutilée. Voilà l'histoire.
Et il est cette figure, vraiment, de cet individualisme radical va développer Ayn Rand par la suite.
Oui, par la suite. Alors, ce qu'elle fait par la suite, c'est qu'elle, le mot individualiste, d'ailleurs, ne figure pratiquement pas dans l'ouvrage, mais par la suite, elle va essayer de l'affiner en substituant au terme individualé un terme beaucoup plus équivoque sur lequel elle va s'expliquer, celui d'individualisme. Mais, comme elle le dit d'ailleurs dans la préface à la vertu d'égoïsme, elle dit « mais je veux défendre un nouveau concept de l'égoïsme, pas celui qui est trivial, mais quelque chose d'autre où, en effet, l'individu prétend d'étendre le droit de disposer totalement, intégralement de lui-même, sous condition qu'il n'agresse pas, ne dépossède pas les autres du même droit ».
La source vive a été portée à l'écran en 1949 par King Vidor avec Gary Cooper dans le rôle du personnage principal. Le passage que nous allons entendre est extrait de son plaidoyer au tribunal alors qu'il est accusé d'avoir détruit son œuvre qui est donc un ensemble de constructions à peine achevées.
Il y a des millénaires, un homme a découvert comment faire du feu. Il fut probablement mis au bûcher par les siens, mais il leur laissa un don inimaginable. Il avait écarté les ténèbres. Depuis, il y a toujours eu des hommes qui ont poussé de nouvelles portes, armés uniquement de leur sagacité. Les grands créateurs, penseurs, artistes, chercheurs étaient toujours seuls face à leurs contemporains. Chaque nouvelle pensée fut ridiculisée, chaque innovation dénoncée. Mais ces visionnaires ne se sont pas arrêtés pour autant. Ils se sont battus, ont souffert, mais ils ont fini par gagner. Aucun créateur n'a été motivé par le désir de plaire à ses concitoyens. Leurs contemporains haïssaient leurs dons. Leur vérité était leur unique modèle. Leur travail, leur seul objectif. Leur travail, et pas ceux qui l'exploitaient. Leur création, et pas ceux que les autres en tiraient. La créativité qui donnait une forme à leur vérité. À leurs yeux, la vérité est au-dessus de tout et de tous. Ils ont continué, que les autres soient d'accord ou non. L'homme ne peut vivre qu'en pensant. Il arrive sur Terre sans armes. Son esprit est sa seule arme, mais l'esprit est l'attribut de l'individu. Le cerveau collectif n'existe pas. L'homme qui réfléchit doit agir en fonction de lui-même. Le cerveau ne peut pas travailler sous la contrainte. Il ne peut être subordonné aux désirs, aux besoins d'autrui. Ce n'est pas un objet sacrificiel. Le créateur doit assumer ses choix. Le parasite suit l'opinion des autres. Le créateur pense. Le parasite imite. Le créateur produit. Le parasite pille. Le créateur aspire à conquérir la nature. Le parasite aspire à conquérir l'homme. Le créateur a besoin d'indépendance. Il n'est au service de personne. Il croit aux échanges équitables et à la liberté de décision.
Gary Cooper, alias Howard Roark, apparaît ici comme un nouveau Prométhée, Stéphane Legrand.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait cette figure, celui qui à lui seul et par sa grandeur apporte aux autres qui vont en bénéficier sans y avoir contribué le feu et la technique et donc la possibilité du progrès, de l'humanisation, etc. Alors, deux, trois remarques quand même peuvent être faites sur la philosophie de l'individualisme radical ou de l'égoïsme radical. C'est très significatif. Quand elle dit il n'y a pas de cerveau collectif, c'est quelque chose que n'importe quel rudiment de sociologie des sciences ou même de connaissances épistémologiques de base peut démontrer l'absurdité. Bien sûr que si. La science n'existe pas indépendamment d'un processus collaboratif et de moins en moins à mesure que la science progresse.
Pour Ayn Rand, au contraire, c'est lorsque l'individu refuse de se conformer aux exigences de la société qu'il lui procure les plus grands bienfaits.
Il y a absolument objet de débat là-dessus. On pourrait y voir un artifice rhétorique, c'est-à-dire une défense de la vertu d'égoïsme qui consiste à dire « oui, mais c'est parce que nous sommes égoïstes, ou les individus géniaux sont égoïstes, qu'en fait, sans le vouloir et sans le désirer, ils servent en fait les intérêts de la masse des improductifs ou de ceux que dans la grève, elle appelle les pilleurs et les parasites ».
Son deuxième grand roman, dont on a déjà commencé à parler, La Grève ou La Révolte d'Atlas, paraît en 1957. « Who is John Galt ?» Voilà la première phrase restée très célèbre aux États-Unis. Alors que raconte ce roman, Alain Laurent ?
Dans La Grève, alors là, il y a un changement radical de registre parce que Ayn Rand, à partir de ce moment-là, pense qu'elle a un travail d'édification des Américains et peut-être du monde entier à entreprendre, ce qui n'était pas du tout son propos, qui était presque purement celui d'une écrivaine avec la source vive. Et là, évidemment, il y a un personnage central, John Galt, qui est très très mystérieux. Quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque tous ces gens-là vont se regrouper dans une sorte de petit cénacle qui est caché au fin fond des montagnes du Colorado, qui s'appelle l'Atlantis, c'est qu'ils regroupent uniquement des créateurs. Alors contrairement en effet à une légende qui veut faire passer Ayn Rand pour un parangon de l'hypercapitalisme, il n'y a qu'un banquier, mais il y a également un compositeur de musique et il y a des ingénieurs. Pour la figure souveraine pour Ayn Rand, c'est pas le banquier, c'est l'ingénieur, celui qui est capable de convertir la nature pour l'adapter aux besoins humains, tout ce côté très prométhéen. Donc John Galt est un génial inventeur, il a créé quelque chose qui a une résonance actuelle. Le premier moteur qui produira de l'énergie à partir de l'électricité statique de l'air, c'est-à-dire sans aucune retombée négative sur le plan écologique, c'est-à-dire le moteur tout à fait souverain.
Mais il va refuser que son invention serve à l'humanité.
Il va refuser qu'elle lui soit retirée par d'autres. Donc il y a toute une sorte d'aspect polar qu'est devenu ce mystérieux moteur. Et encore une fois, il a refusé en effet qu'il y ait des gens qui exploitent son invention, contrairement à ce qu'il avait voulu faire. Donc ce qui est intéressant dans la grève aussi, c'est toute cette mise en place de technologies radicalement nouvelles. Il y a presque un côté anticipation dans le voyage. Et on revient à ce projet Prométhéen, en effet, le mot est tout à fait juste, des Noirs.
Et alors on a cette poignée d'entrepreneurs qui luttent contre l'étatisme généralisé, et alors ils fomentent une grève parce qu'ils sont lassés de porter seuls tout le poids du pays, comme Atlas porte le monde sur ses épaules. C'est finalement une critique de la démocratie sociale interventionniste, Alain Laurent ?
C'est une critique au fond de, alors c'est une fiction, mais de ce que Ayn Rand a cru ressentir dans cette période américaine, d'une sorte de collectivisme. C'est le collectivisme l'ennemi. Et alors ce qui est intéressant aussi dans les rêves, c'est de voir que les autres personnages qui ne sont pas d'ailleurs dans ce repère d'attentistes, ce sont tous des créateurs à leur manière.
C'est une très très bonne présentation, mais j'ai tout de même l'impression que Alain Laurent, vous, par affection sans doute pour Ayn Rand, sa philosophie et ses livres, vous gommez de manière assez systématique un certain nombre d'aspects négatifs et surtout les aspects politiques, les conséquences sociales de ces conceptions qui sont quand même au cœur de la grève. Une dystopie d'abord, puisque c'est un État américain qui est au contrôle de ce qu'elle appelle les looters, les pillards, donc les socialistes, qui veulent redistribuer les richesses, c'est-à-dire qu'ils veulent, soyons tout à fait clairs, elle radicalise sous un mode dystopique ce qu'elle critique politiquement, c'est-à-dire toute forme de système de santé public, toute forme de système d'éducation publique, toute forme de système de transport public. C'est tout à fait clair dans des livres. Alors, elle ne défend pas tant que ça le capital. Elle écrit un livre qui s'appelle « Le capitalisme, l'idéal inconnu ».
On va y revenir.
Bon, donc c'est quand même présent.
C'était Ayn Rand Shrug du groupe Illusion of Joy. Nous sommes toujours avec Alain Laurent et Stéphane Legrand sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Et nous parlons de la théoricienne de l'égoïsme rationnel, Ayn Rand. Ayn Rand est souvent présentée comme la figure tutélaire du mouvement libertarien qui prend forme aux États-Unis dans les années 60. Quels sont les fondements idéologiques de ce mouvement et dans quelle mesure Ayn Rand a été vraiment la grande inspiratrice de ce mouvement, Alain Laurent ?
Elle a été sans l'être. Là aussi, c'est un peu plus compliqué dans la réalité. Alors, c'est vrai que le mouvement libertarien se déclenche, naît au dehors d'elle, mais des jeunes libertariens, les jeunes étudiants libertariens, au fond, trouvent en elle quelqu'un qui, en effet, fait écho et porte très haut leur conception, c'est-à-dire le minimum de contraintes étatiques, le fait de pouvoir s'accomplir soi-même, etc. Non pas chacun dans son coin, contrairement à la FAB, mais en coopérant. Mais ce qui est central, c'est l'idée de coopération volontaire. C'est ça le métro volontaire.
Le libertarianisme se situe au carrefour de l'anticommunisme viscéral, de la contre-culture libertaire et des économistes de l'école de Chicago.
Vous savez, aux États-Unis, le mot libertarian à deux acceptions. Alors, une qui est étroite, qui renvoie donc à ce qu'on pourrait appeler des anarcho-capitalistes, puis une plus large, dans laquelle on range tous les classical liberals, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Europe les libéraux. Pratiquement, il s'en faudrait peu que pour que les grandes figures européennes du libéralisme classique soient qualifiées de libertariennes aux États-Unis. Donc c'est ça l'histoire. Alors ce qui s'est passé, c'est que rapidement, elle a compris que ces gens avaient une conception assez anarchisante de la vie, et c'est ça qu'elle a refusé. Et donc, à partir d'un certain moment, elle a refusé d'être qualifiée de libertarienne. Elle a dit, ce sont des anarchistes hippies de la Californie, je n'ai rien à voir avec eux.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que les libertariens prônent la liberté en toute chose, et ils peuvent se battre autant pour l'abolition de l'impôt comme pour le mariage gay, le port d'armes, la légalisation de la prostitution ou des drogues. Et effectivement, l'objectivisme, qui est donc cette philosophie d'Ayn Rand, elle qualifie sa philosophie d'objectiviste, et le libertarianisme entretiennent peut-être des relations parfois conflictuelles, même s'ils poursuivent les mêmes objectifs politiques, Stéphane Legrand ?
Oui, alors bon, déjà Alain Laurent a parfaitement raison de souligner ce point. Ayn Rand n'a jamais cédé sur le fait qu'il devait exister un État minimal.
Oui, en cela, elle n'est pas anarchiste.
Et elle refuse radicalement, et aussi pour des raisons presque esthétiques, les courants de l'anarcho-capitalisme. Il y a aussi une autre chose qu'elle reproche au courant libertarien, elle n'a jamais accepté pour elle-même cette désignation, elle a même combattu, c'est de ne pas s'évertuer philosophiquement à fonder leur individualisme et donc, par voie de conséquence, le capitalisme, sur des principes moraux. Et d'ailleurs, il y a une anecdote amusante qui est rapportée par Nathan Brandon, qui a été son disciple, puis son objet d'exécration. Il avait trouvé dans un ouvrage de Ludwig von Mises qu'elle lisait, une annotation. Alors, Ludwig von Mises a été quelqu'un qu'elle a fréquenté, qu'elle a lu, dont elle a dit qu'elle avait beaucoup appris de lui. Un passage où Ludwig von Mises définissait le capitalisme sur une base pragmatique, c'est-à-dire c'est le système le plus efficace de circulation des biens, etc., d'accomplissement de l'individu. Elle avait écrit « bastard » en marge, « bâtard ». Voilà, elle avait son tempérament, hein. Parce que pour elle, c'était inacceptable de fonder le capitalisme sur une base d'abord non philosophique et non éthique, et de ne pas faire de l'individualisme une morale. C'était essentiel pour elle, et donc par voie de conséquence, le capitalisme comme seul système moral, non pas seul système efficace, comme généralement il est défendu, mais seul système moral. C'était crucial pour elle, et c'est ce qui fait qu'elle était finalement très très seule dans ce qui peut être perçue comme la vague mouvance libertarienne à l'époque.
Alors pour la journaliste américaine Cathy Young, le libertarianisme, le mouvement donc le plus proche des idées de Rand, est moins un descendant qu'un enfant rebelle. Peut-être que les objectivistes voient les libertariens finalement comme des plagieurs, Alain Laurent, et les libertariens voient les objectivistes comme des idéalistes dogmatiques et irréalistes.
Oui, il y a un peu de ça. On peut tout à fait compter l'objectivisme comme une variante ou l'une des versions possibles du libertarianisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de coopération entre eux, mais on revient toujours à ce fait que tout ce qui est susceptible d'être qualifié d'anarchisme, de refus de quelque contrainte que ce soit, alors que l'objectivisme est assez contraignant, librement contraignant, un être humain n'est pas en droit de faire n'importe quoi de lui-même, là, il y a tout de même une ligne de démarcation tout à fait forte.
Il y a des adeptes de la pensée d'Ayn Rand qui ont tenté de mettre en place sa philosophie en créant un lieu où l'État serait très peu présent. Et ils ont tenté de le faire de façon physique. Après, ils ont tenté de le faire sur Internet avant de se rendre compte que finalement, ces lieux existaient déjà. C'est les paradis fiscaux. Stéphane Legrand.
Il y a un projet, je pense que vous avez ça en tête, qui est d'ailleurs initié par le fils ou le petit-fils, bon, soit le fils soit le petit-fils de Milton Friedman, de créer des îles artificielles dans les océans, c'est-à-dire dans des zones entièrement soustraites au contrôle des États, et donc qui seraient entièrement défiscalisées et libres de tout contrôle étatique. Donc, ça fait partie d'une série de projets inspirés d'Ayn Rand. Le premier projet d'île artificielle s'appelait justement Atlantis, en référence à l'utopie de Galt. Donc c'est quelque chose qui continue à inspirer. Alors beaucoup de gens de la Silicon Valley justement investissent, qui sont souvent justement des innovateurs, etc., qui se reconnaissent dans sa pensée, investissent dans des projets de ce type. Donc c'est encore présent dans sa certaine imaginaire, disons.
Ce qu'on voit, c'est qu'elle a vraiment créé toute une mythologie au capitalisme, Alain Laurent.
Oui, mais ce ne sont pas du tout des paradis fiscaux. Ce sont des communautés extra-étatiques qui ne veulent obéir à aucun État actuellement existant. Alors du coup, en effet, ils ne répondent pas.
Et coup de bol, il n'y a pas non plus d'impôts à payer.
Oui, sauf qu'il faut bien entretenir, donc il faut mettre des charges de copropriété, ce qui est la moindre des choses. Mais
pour Ayn Rand, il faut être un individu exceptionnel, elle a un rapport nietzschéen à l'être humain.
Oui, c'est pourquoi je continue à préférer la source vive à la grève sur ce plan-là, parce que des gens qui cultivent l'entre-soi se retrouvent entre eux, à quoi bon vivre s'il n'y a plus l'apport de l'altérité ou de choses comme ça. Donc pour moi, la critique n'est pas du tout d'ordre fiscal, elle est plutôt sur un plan plus humaniste, si je puis dire. Ce qui est plus symptomatique, c'est tout de même qu'une bonne partie des créateurs, des inspirateurs de la Silicon Valley se soient retrouvés et se soient dit inspirés par Ayn Rand. C'est le cas des créateurs d'Amazon, d'Apple, etc. C'est pas rien.
On va y revenir, mais d'abord, chez Ayn Rand, le marché libre est la condition de la créativité. C'est ce qu'explique l'une de ses biographes, Jennifer Burns. Elle est historienne et auteure de La déesse du marché, Ayn Rand et la droite américaine. Ce que Rand offre dans son œuvre, ce qui est nouveau, unique et important, c'est sa représentation du marché libre comme un lieu de créativité personnelle. Ce n'est pas seulement un argument économique. Beaucoup de gens se prononcent en faveur des marchés libres en disant qu'ils sont plus efficaces, ils font que les choses fonctionnent mieux, ils rendent la société plus prospère. Ce n'est pas vraiment ce qui intéresse Rand. Ce sont les effets secondaires du fait que seuls les marchés libres permettent aux gens de faire preuve de créativité et de vraiment s'épanouir et de tirer le plus de leur potentiel. Donc pour elle, on en revient à l'individu. Et ce qui est extrêmement important dans la grève, c'est qu'elle s'intéresse au monde des affaires, le monde de l'entreprise. Un monde qui, dans les années 50, était considéré comme ennuyeux et banal et plein de conformistes. Et elle rend ce monde existant et glamour et montre comment l'homme d'affaires peut être un artiste à sa manière, un créateur à sa manière. Elle présente donc un argument autant culturel qu'intellectuel en faveur des marchés libres. Elle explique que ceci est le meilleur des mondes possibles, un système de marché libre qui permet aux gens d'avoir une nouvelle idée et de travailler vraiment dur et de mener à terme ce projet. C'est pour elle la façon pour les individus de tirer le plus de leur potentiel. Parallèlement, la société dans son ensemble devient peut-être plus prospère, mais c'est véritablement la liberté de l'individu et la créativité de l'individu qui est au cœur de ses préoccupations.
Pour Ayn Rand, le capitalisme constitue la forme idéale d'organisation de la société. C'est ce qu'elle explique dans son ouvrage paru en 1966, Capitalism, the Unknown Ideal. Donc le capitalisme, cet idéal inconnu qui n'a pas été traduit en français, Stéphane Le Grand.
Oui, je m'attarderai sur un seul des textes qui sont recueillis dans cet ouvrage, hein, car il y a eu des salles, conférences, etc. Qui est un texte que moi je trouve absolument... Rien que le titre est génialissime. La minorité américaine opprimée... La grande entreprise. Big business, en anglais. Exactement ce qu'elle opère hein, dans Atlas Shrugged, mais cette fois sous une forme directement théorique et non plus romanesque. C'est un renversement, pour le dire très simplement, un renversement du schéma marxiste. Dans le schéma marxiste, c'est la force de travail, c'est-à-dire la productivité sociale, la source de richesse, c'est le prolétariat, c'est-à-dire la classe travailleuse, la masse de la population, et puis les profiteurs, ce sont les capitalistes qui détiennent les moyens de production et qui prélèvent le profit, le plus-value et donc le profit.
Bon. Et elle renverse ça.
Elle renverse complètement ça. La seule source réelle de richesse sociale, etc. Ce sont les génies innovants et la masse de la population, ce ne sont que des moochers, comme elle dit. Hein. Soit looters, soit des pilleurs, soit des moochers, des parasites qui bénéficient, qui pompent le sang, hein, littéralement, sous forme de fric, de cela. Alors ça, elle le montre de manière romanesque, c'est pour ça que ça marche dans Atlas Shrugged, et elle le théorise dans le
capitalisme, l'idéal inconnu.
Donc c'est encore inverser le schéma, c'est-à-dire les opprimés, ce ne sont pas les pauvres, les minorités défavorisées, que sais-je, les latinos, ça, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les grandes entreprises, etc. C'est un renversement.
Je vous propose d'écouter la voix d'Ayn Rand, c'était en 1961.
The economic value of a man's work.
La valeur économique du travail d'un homme est déterminée par un marché libre, par un principe unique. Le consentement volontaire de ceux qui sont disposés à échanger leur travail ou leurs produits. C'est le sens moral de la loi de l'offre et de la demande, ce qui signifie rejeter deux doctrines, la prémisse tribale et l'altruisme.
It represents the recognition of the fact that man is not the property.
Cela signifie que l'homme n'est ni la propriété ni le serviteur de la tribu, qu'un homme ne travaille que pour advenir aux besoins de sa propre vie, comme sa nature lui ordonne, et qu'il doit être guidé par son esprit rationnel et ses intérêts. Et que s'il veut commercer avec d'autres, Il ne peut s'attendre à de victimes sacrificielles. Les progrès magnifiques réalisés par le capitalisme en un bref laps de temps, l'amélioration spectaculaire de la condition des hommes sur la Terre, est une affaire historique. Cela ne peut être caché, éludé ou expliqué par la propagande des ennemis du capitalisme.
On l'entend, Ayn Rand transforme véritablement le capitalisme en idéal moral, Alain Laurent ?
Oui, enfin, le transforme, elle le voit comme ça. Si on dit on le transforme, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Je vois pas pourquoi, d'emblée, on dirait qu'il ne peut pas l'être.
C'est pas la première façon qu'on a d'aborder le capitalisme.
Oui, mais en France. D'où, en effet, la difficulté de la réception d'un homme, parce qu'il y a un blocage là-dessus. Cela étant, à cette époque-là, dans Capitalism, ce sont des textes de conférences qu'elle a prononcés à partir des années 60. Elle a, me semble-t-il, délaissé ce qui était son inspiration première, c'est-à-dire le capitalisme purement entrepreneurial, c'est-à-dire qui est assis sur la créativité d'un individu ou d'un groupe d'individus, je renvoie le Silicon Valley, qui décide d'exploiter une idée que seuls ils ont eue. On vient à notre désaccord de tout à l'heure, puisque personne d'autre avant, les gens de Silicon Valley, ne l'a fait. Ils l'ont fait dans des garages, ça veut dire qu'il n'y avait aucune grande banque mondiale qui était là pour les financer. Donc il faut revenir tout de même à cette réalité extrêmement concrète et contrôlable par n'importe qui. Donc mon interprétation, c'est qu'à partir d'un certain moment, je me demande si Ayn Rand, enfin je me demande pas, j'en suis quasiment certain, ce qui m'a fallu en effet des rapports de plus en plus difficiles avec les objectivistes américains, puisque j'ai osé la critiquer, même mettre en doute le fait qu'elle était une véritable philosophe au sens classique du terme.
Et ça, ça n'était pas acceptable.
Oui, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour Ayn Rand, mais une admiration critique et effectivement critiquer, mettre en doute certains articles de foi. Et il n'y a pas longtemps, dans un débat en France, j'ai trouvé donc des adeptes français d'Ayn Rand, mais dans votre livre, vous montrez des aspects d'Ayn Rand qui ne donnent pas envie de l'admirer. Je dis, ben oui, mais c'est la réalité. On ne va pas tout de même se cacher devant ça. Alors, je reviens au problème de fond. Je pense qu'à partir des années 62, 63, 64, l'atmosphère d'adulation qui l'entourait lui est montée carrément à la tête. Et c'est à partir de ce moment-là que, à mon sens, elle délaisse un certain nombre d'aspects qui l'avait inspiré de façon judicieuse au départ.
Pour en revenir à sa pensée, pour Ayn Rand, l'État et l'économie doivent être séparés de la même façon et pour les mêmes raisons que l'Église et l'État.
Tout à fait, c'est ce qu'elle a dit. Je reviens sur un aspect de la grève pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que dans la grève, presque tout se passe autour des chemins de fer, qui fascinaient tout à fait Ayn Rand. Donc il y a une grande montée du chemin de fer. Pour qu'il y ait des chemins de fer, il y a des cheminots. Et ce qui est remarquable dans le roman d'Ayn Rand, c'est qu'elle a la plus grande admiration pour les cheminots les plus modestes. Et dans la compagnie de Dan Guittergard, les cheminots modestes sont bien payés. C'est ça le capitalisme pour elle. Bien payer les gens qu'on emploie, leur donner des tâches créatives à leur mesure et bien les considérer, ce qui fait écho à des débats actuels.
Alors Stéphane Legrand, chez Ayn Rand, on peut dire que le capitalisme, c'est en quelque sorte le mariage d'Adam Smith et de Max Stirner, le philosophe de l'individualisme anarchiste.
Oui, là disons, dans mon livre, j'ai parfois des formules, j'ai souvent des formules un peu sarcastiques et excessives. Là, c'est une formule tout à fait excessive, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, elle a complètement répudié l'anarcho-capitalisme. Donc, non, ce que j'essaye de penser tant bien que mal dans le livre, c'est aussi un point qui est à quel point cette pensée qui est rigoureuse, sinon même rigide, qui est celle d'Ayn Rand, a pu, au moins dans ses formulations directement théoriques, a pu se marier aussi aisément avec des courants aussi variés de la pensée, alors surtout américaine, et susciter des passions dans des secteurs aussi divers. C'est-à-dire aussi bien, effectivement, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, que Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, en tout cas le fondateur de Wikipédia, aussi bien, évidemment, dans la droite évangéliste américaine, le Tea Party, Ted Cruz, alors Alain Laurent me disait que Paul Ryan, le Speaker of the House américain, l'avait répudié, enfin, des figures très très importantes de la droite réactionnaire américaine, qui ne partagent absolument pas ses valeurs sur le plan, disons, social, qui sont anti-gay, qui sont Évidemment, profondément religieux,
etc. Elle-même refuse l'étiquette de conservateur. Elle défend le droit à l'avortement, elle s'oppose à la guerre du Vietnam parce qu'elle dit que c'est une guerre qui est d'inspiration altruiste. Alors bon,
hallucinant aujourd'hui. C'est précisément pour ça que c'est fascinant que ces gens-là qui appartiennent, eux, à la droite, alors évidemment qu'ils soutiennent des idées néolibérales en économie, mais des idées extrêmement conservatrices et réactionnaires dans les autres secteurs de l'existence, aient pu absorber autant Ayn Rand et en faire un étendard. Je veux dire, Ayn Rand est aux États-Unis le Che Guevara du capitalisme. Le Tea Party, quand il manifestait contre Obama, il brandissait des pancartes Who's John Galt, il se réclamait d'Ayn Rand. Dans les campus américains, les étudiants de droite ont des t-shirts à l'effigie d'Ayn Rand. Donc c'est très étrange qu'une pensée si rigide soit si malléable finalement idéologiquement. Mais peut-être parce que justement la fascination exercée par les mythes romanesques qu'elle a créés la rend labile en quelque sorte, cette pensée. Il lui permet de pénétrer des secteurs où elle, et des cerveaux dans lesquelles elle ne pénétrerait pas normalement.
Vous parliez d'un culte, effectivement, un timbre a été édité à son effigie, elle a fait des apparitions dans les séries Mad Men, enfin sa figure, South Park ou les Simpsons, mais elle demeure en effet peut-être surtout une référence pour la droite américaine, et elle a notamment été le mentor d'Alan Greenspan, qui deviendra le directeur de la Fed, et on a même pu la considérer comme la philosophe officielle de l'administration Reagan, Alain Laurent.
Alors elle détestait Reagan.
Alors même qu'elle détestait Reagan.
Oui, oui. Elle détestait radicalement tous les politiciens. Faut savoir d'ailleurs que c'est à cause de cela qu'elle récuse le conservatisme, parce qu'elle accuse les conservateurs d'être aussi étatistes que la gauche, mais en voulant mobiliser l'État pour imposer une éthique puritaine, etc. S'il y avait quelqu'un d'anti-puritain, c'était bien énorme. D'où, en effet, le grand malentendu dans les rangs des évangéliques, mais à part, dès lors qu'ils apprennent, parce que souvent ils n'ont pas vraiment lu, ils ont entendu parler, dès lors qu'ils la lisent et qu'ils apprennent qu'elle est pour la liberté de l'avortement, vous savez, alors ça c'est le marqueur suprême pour être un conservateur puritain réactionnaire aux États-Unis. En effet, ça ne va plus.
Et puis aussi le fait que c'est une athée militante et qu'elle dit que le christianisme c'est le jardin d'enfants du communisme.
Oui, tout à fait, et qu'elle apprend qu'elle est athée en plus. Donc en effet, là, elle est tout à fait... rejetée. Et alors, le comble qui a pu lui arriver, à elle, qui est même partisane de free market, c'est d'être récupérée au début de l'administration Trump. Et là, il y a tout de même une riposte vigoureuse de la part des milieux rendus en disant « Mais nous n'avons rien à voir avec quelqu'un qui est protectionniste. » Ne serait-ce que pour ça, en effet, ça ne marche pas.
Alors justement, lorsqu'on lui demande quels sont ses livres préférés, Donald Trump cite The Fountainhead, le deuxième roman d'Ayn Rand. Et à la Maison-Blanche, il s'est entouré de nombreuses personnalités qui la vénèrent. Mais pour vous, Alain Laurent, pas de doute, Donald Trump n'est pas randien.
Oh ben, comment quelqu'un d'aussi irrationnel et fantasque et qui fait n'importe quoi, qui n'a peut-être jamais lu un livre de sa vie, qui ne pense pas, pourrait-il être considéré comme randien ? C'est presque l'antithèse et la caricature de ce que peut être un randien. D'ailleurs, tous les admirateurs d'Ayn Rand aux États-Unis en conviennent. Et ça vaut également pour son entourage. Il n'est pas sûr du tout qu'il ait lu Atlas. Hein. Peut-être quelqu'un, ce conseiller, il en a fait un petit résumé quelque part, mais c'est tout ce qu'on peut espérer.
Alors, si ce n'est pas Donald Trump, son héritier, Stéphane Legrand, qui sont aujourd'hui les héritiers d'Ayn Rand, la Silicon Valley, on en parlait, semble se retrouver dans cette idéologie libertarienne qui a parfois aussi des accents un peu messianiques. Vous diriez que son idéologie, elle réapparaît aujourd'hui à la faveur de la montée en puissance de l'esprit start-up ?
Je dirais pas ça exactement comme ça. Je dirais que j'ai l'impression, enfin, même la certitude que Alain Laurent et moi abordons la même situation, disons, avec deux perspectives diamétralement opposées, pas fondamentalement incompatibles, mais pourtant opposées. C'est-à-dire, Alain Laurent, parce qu'il veut rendre justice à la pensée d'Ayn Rand dans sa réalité, sa complexité, à soin et c'est une perspective légitime de pointer tout ce qui est inexact, tout ce qui sont des malentendus, tout ce qui sont des contresens, etc., qui ont pu être faits au fil des années, des décennies, etc., et encore aujourd'hui. Et bien évidemment, enfin, on vient de mentionner quelques-uns qui sont massifs sur la question de la religion, par exemple. Ma perspective est plutôt de me demander, oui, mais qu'est-ce qu'il y a pu permettre qu'elle devienne cette figure-là, qu'elle devienne cet emblème, qu'elle devienne cette référence? Et donc pas d'épurer, si vous voulez, la statue pour voir ce qu'il en est en sa vérité, mais de se dire qu'il y a peut-être une autre vérité qui est derrière, qui est comment ce phénomène a pu se produire, comment ces contresens ont pu être, en tant que contresens aussi féconds, aussi influents, aussi populaires. Atlas et The Fountainhead sont les deux livres les plus lus aux États-Unis.
Mais justement, très concrètement, les entrepreneurs de la Silicon Valley partagent avec Ayn Rand cette croyance que les nouvelles technologies sont une promesse d'émancipation de l'individu, de toute autorité, et c'est aussi l'idée que l'on s'accomplit en faisant du collectif. Donc comment expliquer que la Silicon Valley reprenne ainsi la pensée d'Ayn Rand ?
Parce que ça correspond idéalement à l'image qu'ils ont envie, sinon besoin, de se donner d'eux-mêmes en tant que génie innovant, créateur. Les figures de Howard Roark ou John Galt sont tellement parfaites et héroïsées.
Ils sont idéalisés.
Oui, à tel point qu'on a envie de s'identifier à eux et donc de s'identifier ipso facto à leur idéologie. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains éléments de son idéologie passent aussi en sous-main à travers l'identification fantasmatique à ces héros trop parfaits.
Cependant, on voit quand même apparaître des frictions entre ce libertarianisme qu'on pourrait appeler high-tech et la vieille garde libertarienne, Alain Laurent.
Pas exagéré. Bah,
par exemple, pour l'ouverture des frontières, ils ne sont pas d'accord, ou sur la question de la propriété intellectuelle, oui, que la Silicon Valley défend, mais qu'un certain nombre de libertariens rejettent.
C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a de multiples interprétations possibles. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la figure de la créativité entrepreneuriale qui a séduit les gens de Silicon Valley, en tout cas pour les plus entrepreneurs d'entre eux. Et on revient à quelque chose dont nous avons parlé tout à l'heure, le fait de le faire par soi-même, sans demander l'aide de qui que ce soit. Et déjà, ce sont des gens qui se sont développés au départ sans les banques, à partir rigoureusement de rien. Je voudrais terminer sur une petite chose tout de même très anecdotique, mais révélatrice. Un philosophe actuel, Dominique Lecourt, raconte, puisqu'il s'est beaucoup intéressé à Ayn Rand aussi, que s'il a convaincu de l'extrême importance d'Ayn Rand, c'est lorsqu'il il attendait son avion à l'aéroport de New York, il prend un café, et la serveuse vient, la barmaid vient, et il avait pris tout à fait par hasard un tasse à lire. Et c'est la serveuse qui lui dit, écoutez, mes félicitations, vous lisez l'un des plus grands livres. C'est-à-dire que l'écho rencontré par Ayn Rand va tout à fait chez les plus modestes qui trouvent là une matière à inspiration.
Pour conclure, que reste-t-il aujourd'hui d'Ayn Rand selon vous et quelle est peut-être l'influence de sa pensée hors des États-Unis et notamment en France, d'un mot, Alain Laurent ?
Oh, pour le moment, son influence, pendant longtemps, elle était nulle, mais depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, moi j'ai noté tout de même un intérêt. Par exemple, le grand quotidien Les Échos avait fait un dossier d'une dizaine de pages dessus. Ici à France Culture, on a fait toute une semaine tout de même dans l'émission
Avoir raison avec.
Donc il y a tout de même un certain nombre de signes. Et aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que dans le milieu académique et dans le milieu universitaire, maintenant il y a des dizaines de jeunes philosophes qui s'intéressent à Ayn Rand, qui s'intéressent soit en étant pour ou simplement en voulant la regarder, c'est le cas de le dire, objectivement.
Que reste-t-il aujourd'hui de la pensée d'Ayn Rand, d'un mot, Stéphane Legrand ?
Disons un emblème. Je pense que ce qui reste réellement de la pensée d'Ayn Rand se joue pas dans les chaires universitaires ou les livres inspirés par sa pensée. Sa pensée philosophique me paraît rudimentaire, pour être poli. Je pense qu'elle se joue à un niveau insidieux, très difficile à percevoir, protéiforme. Pas tellement dans les citations qui en sont données dans les magazines, les articles ou les textes universitaires, même les plus brillants.
Vous appelez peut-être à se méfier d'une forme de fascination pour Ayn Rand, alors même que dans son idéologie, vous voyez un certain nombre de dangers économiques et politiques
et
sociaux, bien sûr.
Et intellectuels et philosophiques, mais bon, ça, ce serait à débattre. Mais oui, vous venez de le formuler beaucoup mieux que je ne l'ai fait.
Un grand merci à tous les deux.
Merci à vous.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la postérité d'Ayn Rand.
Mais oui, une postérité multiple et protéiforme justement, puisque si l'auteur de la grève reste quasiment inconnu en France, elle atteint aux États-Unis une impressionnante renommée, notamment après sa mort. Ses ouvrages sont ainsi devenus des classiques lus par des générations d'étudiants et son visage lui-même s'est retrouvé téléporté dans des épisodes des Simpsons ou de South Park, piliers de la culture populaire américaine. Au-delà de ses apparitions révélatrices mais néanmoins anecdotiques, elle est aujourd'hui perçue aux États-Unis comme l'une des principales intellectuelles de la seconde moitié du XXe siècle et rayonne bien au-delà des cercles libertariens auxquels on tente souvent de la réduire avec un peu de facilité. Atlas Shrugged, son livre principal, a même été classé par la Bibliothèque du Congrès comme l'ouvrage le plus influent aux États-Unis derrière la Bible. Pas certain que ce classement l'eût vraiment ravie, elle qui professait dès 13 ans un athéisme résolu.
Certains voient même en elle la prophétesse du déclin irrémédiable de l'Amérique.
Mais oui, des lecteurs contemporains n'hésitent pas à voir dans la description apocalyptique de la ville de Starnesville dans Atlas Shrugged le destin prophétique d'une ville comme Détroit. Ayn Rand écrit ainsi « Les bâtiments vides étaient en ruine, ils avaient été mangés non par le temps mais par les hommes, des planches arrachées au hasard, des tuiles manquantes, des trous laissés dans des caves brûlées. Au-delà de la ville, sur une colline éloignée, se tenait l'usine de la 20th Century Fox Motor Company. Ses murs, toits et cheminées semblaient solides, impénétrables comme une forteresse. » L'usine paraissait intacte à l'exception d'une citerne argentée renversée sur le côté. Difficile donc de ne pas voir dans cette vision hallucinée de Starnesville la version alternative d'une ville comme Détroit, avec son industrie automobile jadis prospère et démolie par la crise financière de 2008, entraînant l'exil de centaines de milliers de ses habitants. Certains poussent même l'analyse libérale jusqu'à voir dans cette faillite pourtant manifeste du laisser-faire capitaliste la banqueroute d'une ville nécrosée par la dette et la toute-puissance des syndicats. En clair, trop de place laissée à l'État et aux corps intermédiaire, bien loin du sacro-saint égoïsme rationnel prôné par Ayn Rand.
Un égoïsme rationnel qui a également d'ailleurs eu une incidence profonde sur l'économie américaine.
Oui, c'est ce que l'on peut effectivement postuler quand on sait que l'un des principaux turiféraires de la pensée randienne n'est autre que l'ancien président de la réserve fédérale américaine, le très libéral Alan Greenspan. Celui qui professait dès sa prime jeunesse une admiration sans bornes pour l'instigatrice de l'objectivisme fut l'un des premiers membres de The Collective, ce groupe de proches d'Ayn Rand qui se réunissait dans les années 50 et 60 au domicile de la philosophe pour refaire le monde en bonne compagnie. Celui-ci évoquera plus tard le souvenir ému de ses conversations avec Ayn Rand comme des moments de profonde émulation intellectuelle, des parties d'échecs où il se trouvait, je cite, immanquablement échec et mat face aux fulgurances de la philosophe. Le futur économiste retiendra surtout de ses longues conversations avec Ayn Rand l'impératif absolu de liberté et les vertus d'un égoïsme bien ordonné, préceptes qui guideront son action pendant les 20 ans qu'il passera à la tête de la Fed et durant lesquels il ne cessera d'accompagner et de militer pour une plus grande dérégulation financière. Une action inspirée qui aboutira, comme on le sait, à la plus grande crise économique survenue aux États-Unis depuis 1929.
Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
On se quitte sur New York, New York de Shirley Bassey. Merci beaucoup Alain Laurent et Stéphane Legrand de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle vos ouvrages respectifs. Alain Laurent, Ayn Rand ou La passion de l'égoïsme rationnel, une biographie intellectuelle parue aux belles lettres. Stéphane Legrand, Ayn Rand, Femme capitale parue aux éditions Nova. C'est la fin de notre semaine consacrée aux grandes figures qui ont marqué la pensée économique. On se retrouve dès lundi à 14h. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.